Les contes de la Vierge de Jérôme et Jean Tarot. Ma chère maman, ces contes de la Vierge, tu te rappelles qu'autrefois, il y a bien longtemps, j'ai essayé de les écrire sur ta table à ouvrage, ta chère petite vieille table, où toute ma vie j'ai vu les mêmes boutons de toutes sortes disparaître pour revenir dans les mêmes casiers. J'écrivais dans ton petit jardin plein de roses, des roses qui sentaient si bon et que nous allions porter ensemble par les beaux soirs de mai à Notre-Dame d'Aubézine sous les remparts d'Angoulême. Comme tu faisais des boutons de la table à ouvrage, ces contes, je les ai moi aussi pris et repris sans cesse. Les voilà enfin réunis sous la forme la moins imparfaite que j'ai pu leur donner. Mais je ne le sais que trop, quand on se mêle, comme j'ai osé le faire, d'associer le ciel et la terre et de parler du paradis, on ne trouve pas toujours les boutons. Je veux dire, les mots qui conviennent. Excuse-nous près de Notre-Dame. Excuse-nous aussi, je te prie, près de nos deux maîtres vénérés, Messire Gauthier de Coincy, prieur de Vic-sur-Aisne, et Joseph Bédier, notre ami. Je t'ai parlé de ce dernier bien souvent. Tu te souviens peut-être que c'est lui qui m'avait donné autrefois l'idée de conter à mon tour les pieux récits du vieux prieur, car il est bien permis aux générations nouvelles de raconter à leur façon les contes des anciens, et même d'en inventer au besoin. Par la grâce de quelques immortels, Dieu le Père a voulu que je prenne à certains fauteuils la place de mon maître parti pour le pèlerinage dont on ne revient pas. Si tu le rencontres dans une allée du ciel, où il est certainement avec toi, dis-lui que j'ai suivi son conseil et partagé ensemble ce petit florilège auquel j'aurais voulu donner le parfum des fleurs de ton jardin. La dernière visiteuse. C'était à Bethléem à la pointe du jour. L'étoile venait de disparaître. Le dernier pèlerin avait quitté l'étable. La Vierge avait bordé la paille. L'enfant allait dormir enfin. Mais dort-on la nuit de Noël? Doucement, la porte s'ouvrit. Poussé, eût-on dit, par un souffle, plus que par une main. Et une femme parut sur le seuil, couverte de haillons, si vieille et si ridée que dans son visage couleur de terre, sa bouche semblait n'être qu'une ride de plus. En la voyant, Marie prit peur, comme si ça avait été quelque mauvaise feu qui entrait. Heureusement, Jésus dormait. L'âne et le bœuf mâchaient paisiblement leur paille et regardaient s'avancer l'étrangère sans marquer plus d'étonnement que s'ils la connaissaient depuis toujours. La Vierge, elle, ne la quittait pas des yeux. Chacun des pas qu'elle faisait lui semblait long comme des siècles. La vieille continuait d'avancer. Et voici maintenant qu'elle était au bord de la crèche. Grâce à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais dort-on la nuit de Noël? Soudain, il ouvrit les paupières, et sa mère fut bien étonnée de voir que les yeux de la femme et ceux de son enfant étaient exactement pareils et brillaient de la même espérance. La Vierge alors se pencha sur la paille, tandis que sa main allait chercher dans le fouillis de ses haillons quelque chose qu'elle sembla mettre des siècles encore à trouver. Marie la regardait toujours avec la même inquiétude. Les bêtes la regardaient aussi, mais toujours sans surprise, comme si elle savait par avance ce qui allait arriver. Enfin, au bout de très longtemps, la Vierge finit par tirer de ses hardes un objet caché dans sa main et elle le remit à l'enfant. Après tous les trésors des mages et les offrandes des bergers, quel était ce présent? D'où elle était, Marie ne pouvait pas le voir. Elle voyait seulement le dos courbé par l'âge et qui se courbait plus encore en se penchant sur le berceau. Mais l'âne et le bœuf, eux, le voyaient et ne s'étonnaient toujours pas. Cela encore dura bien longtemps. Puis la vieille se releva, comme allégée du poids très lourd qui la tirait vers la terre. Ses épaules n'étaient plus voûtées, sa tête touchait presque le chaume. Son visage avait retrouvé miraculeusement sa jeunesse. Et quand elle s'écarta du berceau pour regagner la porte et disparaître dans la nuit d'où elle était venue, Marie put voir enfin ce qu'était son mystérieux présent. Ève, car c'était elle, venait de remettre à l'enfant une petite pomme, la pomme du premier péché et de tant d'autres qui suivirent. Et la petite pomme rouge brillait aux mains du nouveau-né comme le globe du monde nouveau qui venait de naître avec lui. La Vierge aux oiseaux. La Vierge fuyait avec l'enfant devant les soldats du roi Hérode. En chemin, elle rencontra la colombe, et la colombe lui demanda « Où vas-tu avec ton enfant ?» La Vierge alors lui répondit « Je fuis les soldats du roi Hérode, mais déjà on apercevait la poussière que faisaient les cavaliers, et la colombe s'envola. » La Vierge continuait de fuir devant les soldats du roi Hérode. En chemin, elle rencontra la caille, et la caille lui demanda « Où vas-tu avec ton enfant ?» La Vierge alors lui répondit « Je fuis les soldats du roi Hérode. » Mais déjà on entendait le galop des chevaux et la caille aussi s'envola. La Vierge s'enfuyait toujours devant les soldats du roi Hérode. En chemin, elle rencontra l'alouette et l'alouette lui demanda « Où vas-tu avec ton enfant ?» La Vierge alors lui répondit « Je fuis les soldats du roi Hérode. » Mais déjà on entendait les jurons des soudards et l'alouette fit cacher la Vierge derrière une touffe de sauge. Les soldats d'Hérode ont rencontré la colombe. Ils ont dit à la colombe « Colombe, as-tu vu passer une femme avec son enfant ?» La colombe leur a répondu « Soldat, elle a passé par ici. » Et elle leur montra le chemin que la Vierge avait suivi. Les soldats d'Hérode ont rencontré la caille et ils ont dit à la caille « Caille, as-tu vu passer une femme avec son enfant ?» La caille leur a répondu « Soldat, elle a passé par ici. » Et elle leur montra à son tour le chemin que la Vierge avait suivi. Les soldats d'Hérode ont rencontré l'alouette. Et ils ont dit à l'alouette « Alouette, as-tu vu passer une femme avec son enfant ?» L'alouette leur a répondu « Soldat, elle a passé par ici. » Mais elle les conduisit très loin de la sauge de la Vierge et de l'enfant. Or, sachez à présent ce qu'il advint des trois oiseaux. Dieu a condamné la colombe à roucouler une plainte sans fin, et la caille à raser la terre d'un vol qui la livre aux chasseurs. Quant à l'alouette, sa récompense est de porter chaque matin le salut de la Vierge au soleil. Les trois oiseaux de proie. En ce temps-là, le lac de Tibériade ne portait pas ce nom. Ce ne fut que quelque temps après ce que je vais vous raconter, que le fils du cruel Hérode édifia sur ses bords la cité qu'il baptisa Tibériade pour faire sa cour à l'empereur. Le beau lac s'appelait Tinérette, ce qui veut dire la harpe, parce que ses contours harmonieux offrent exactement la forme de cet instrument de musique si cher au roi David. Ce jour-là, un gros orage venait d'éclater sur la montagne. Avec la fin du jour, le vent emportait les dernières nuées. Le lac avait repris son calme et les nombreux oiseaux qui le hantent, cormorans, pélicans, mouettes, alcillons, martins pêcheurs, avaient recommencé de plus belle leur vol et leurs cris. Dans le village de Nazareth, trois enfants pataugeaient dans la boue du chemin, fort occupé à dresser un barrage pour retenir l'eau des ornières. Puis, ayant façonné un lac pareil à celui de Kinneret, ils se mirent dans la tête de le peupler lui aussi d'oiseaux, d'oiseaux debout, s'entend. L'un fit quelque chose d'informe qui avait, je crois, la prétention de ressembler à ces beaux cormorans qui ont de grandes ailes pour accourir de loin et donner la chasse aux poissons. L'autre prenait beaucoup de mal pour transformer sa boue en pélican et maintenir en équilibre l'énorme tête et la besace suspendue à son cou. Le troisième pétrissait de ses petites mains une mouette posée sur la rive. Cependant, la nuit était venue. Déjà, la lune se montrait et les premières lueurs s'allumaient dans le village. Indifférents à cette obscurité qui tombait autour d'eux, les enfants ne s'arrêtaient pas de poursuivre leurs travaux fragiles. Mais tout à coup, d'une maison, on entendit une voix qui criait « Luc !» Luc, qui pour la dixième fois essayait de faire tenir sur le bâton qui lui servait de cou le bec de son cormoran, était trop pris par sa besogne pour répondre à l'appel. « Luc ! Luc !» répéta la voix. Luc ne bougea pas davantage. Il fallut qu'une fois encore sa mère le rappelât. Et cette fois, enfin de fort mauvaise humeur, il se décida à quitter son pauvre cormoran qui, dès qu'il fut parti, s'écroula et du coup cessa d'être un cormoran, même debout. « Marc !» cria bientôt après une autre voix dans le crépuscule. Or, justement, à ce moment, le pélican de Marc venait de s'effondrer à son tour. « J'arrive, j'arrive !» répondit-il. Mais il ne bougea pas, tâchant de réparer hâtivement la catastrophe. « Marc ! Marc !» reprit la voix, impatiente et devenue presque revêche. Et lui aussi, il fallut que sa mère l'appelât une troisième fois. Et cette fois, Marc obéit, non sans avoir, dans sa colère, envoyé d'un coup de pied son chef-d'œuvre dans l'eau. Il n'y avait plus au bord de la petite mare éclairée par la lune que le troisième enfant qui lissait sa mouette d'argile. « Jésus !» appela une femme sur le seuil de sa porte. La voix très douce emplit la nuit, comme aurait fait un parfum. Aussitôt, l'enfant se leva, laissant là sa mouette debout. Et la mouette debout s'envola. La Vierge aux Bohémiens. Trois de ces gens qu'on nomme bohémiens et qui errent par le monde en disant leur sort à chacun, passaient par Jérusalem le jour où les Juifs mécréants menaient au supplice le Fils de Dieu. Sur le chemin, ils rencontrèrent une pauvre femme en pleurs et lui demandèrent la raison qui la mettait dans un si grand chagrin. « Hélas !» leur dit-elle, « aucune femme n'est aussi à plaindre que moi, car on va mettre mon fils en croix sur le mont Golgotha. » « Qu'a-t-il donc fait ? » demandèrent-ils. Alors, s'arrêtant de pleurer, elle leur raconta ce que vous savez tous, à savoir qu'un jour, dans la maison qu'elle habitait à Nazareth, un ange était entré tout exprès pour lui annoncer qu'un enfant allait bientôt naître d'elle et que cet enfant conçu sans péché était le propre Fils de Dieu. Et en effet, comme l'ange avait dit, l'enfant était né dans une étable entre un bœuf et un âne, et trois rois, conduits par une étoile, étaient venus de lointains pays afin de le voir et adorer. Mais aussitôt, elle avait dû s'enfuir pour échapper au roi Hérode, qui avait appris par un songe que cet enfant serait le roi du monde. Puis, se remettant à pleurer, elle leur dit encore que dès son plus jeune âge, l'enfant étonnait les plus sages par les réponses qu'il faisait et qu'on le vit plus tard accomplir des prodiges tels qu'on n'en avait jamais vu, comme de marcher sur les eaux, de changer l'eau en vin, de chasser du temple les voleurs, de rendre la vue aux aveugles, de mettre sur pied les paralytiques et même de ressusciter les morts. Ce qui prouvait à tous clairement qu'il était bien le Fils de Dieu, ainsi que l'ange l'avait révélé et que les prophètes l'annonçaient. Mais il était également écrit que ces Juifs de malheur demeureraient sourds et aveugles et que même le meilleur de ses amis, Pierre le pêcheur, le renierait. Or, tout cela était arrivé. Et maintenant, on allait le mettre en croix. Voilà pourquoi elle pleurait. Et elle eût pleuré plus encore si elle n'avait su que par sa mort, le monde allait être sauvé, et que tous ceux qui croiraient en lui auraient leur place au paradis. « Quelle bonne aventure, dis-tu là ? » s'écrièrent les trois bohémiens. « Nous ne connaissons pas ton fils, mais nous te croyons sur parole, et nous ferons pour lui et pour toi, si l'occasion s'en trouve, du mieux que nous pourrons. » Là-dessus, la laissant à ses larmes, ils se rendirent sans plus tarder sur le mont Golgotha. Il était encore très matin. Le Fils de Dieu et ses bourreaux n'étaient pas encore arrivés. Mais sur la place du supplice, tout était déjà préparé. Il y avait là la boîte à clous, le marteau, les tenailles. Nos vagabonds s'en emparèrent sans vergogne. « C'est autant de prix, se dirent-ils, et dont l'enfant de cette pauvre femme n'aurait toujours pas à souffrir. » Puis, continuant leur route, ils poursuivirent leur vie errante. Or, quelque temps plus tard, quand la Vierge eut rejoint son divin fils au paradis, elle se souvint des trois passants qui lui avaient été pitoyables et voulut les récompenser. Mais ces gueux se ressemblent tous de poils et de couleurs, et pour être bien sûre que ces trois-là seraient sauvés, elle accorda la grâce de voler sans péché à tous les fils de Bohême. Le miracle de Saint Mercure. En ce temps-là, l'empereur Julien, on appelle Julien l'apostat, parce qu'après avoir honoré un moment le vrai Dieu, il était revenu à ses idoles, s'en allait faire la guerre aux Perses, accompagné du grammairien Libanus qui le distrayait par ses discours. Il approchait de Césarée dont on voyait déjà les murailles. « Te souviens-tu, ami, dit-il à son compagnon, qu'il y a quelque 15 ans de cela, nous sommes déjà passés par ici ? Comme la vie était belle alors ! Je n'étais pas encore César et le monde me semblait avoir mon âge, ni plus jeune ni plus vieux que moi. Nous voyagions en philosophe avec une suite modeste et quand nous arrivâmes à la porte de la cité, des jeunes filles nous attendaient pour nous faire une offrande qui s'adressait bien plus aux disciples des muses qu'à l'héritier de l'empereur. « Je m'en souviens, dit Libanius. Et te rappelles-tu encore que pour remercier Césarée de son aimable accueil, tu fis don à la ville d'une statue de Jupiter ?»« Oui, certes, repartit l'empereur, et même, si j'ai bonne mémoire, c'était un des meilleurs morceaux sortis des mains de Praxitèle. » »« Un vrai chef-d'œuvre, en effet, reprit le grammairien. » Mais un chef-d'œuvre qu'hélas tu ne reverras plus. Que dis-tu, Libanius ? La foudre ou quelque autre accident l'aurait-il donc détruit ? La foudre ni les autres éléments n'ont rien à voir en cette affaire. La main des hommes l'a brisée. Par Pollux ! S'écria l'apostat. Je ne suis pas cruel et je n'aime pas la vue du sang, tu le sais. Mais celui qui a porté la main sur cette image deux fois divine, comme figure d'un dieu et ouvrage d'un génie sublime, le paiera de sa vie. C'est donc la ville entière qu'il te faudra punir, ô Julien, car ce sont tous ses habitants qui, ameutés contre nos dieux, l'ont réduite en poussière. Ici, d'ailleurs, tu vas trouver tout changé, les gens, les choses et les statues. Nos temples sont devenus des églises. Les jeunes filles ne vont plus les bras nus, et tu ne les verras plus tout à l'heure dansant et te jetant des roses. « Ah ! » dit l'apostat courroucé, « une fois encore dans mon empire, le Galiléen a vaincu. Si je n'y mets promptement bon ordre, qu'adviendra-t-il de tant de choses que toi et moi préférons à la vie ?» Et le front penché sur sa monture, l'empereur s'enfonça dans un silence que Libanus n'osa plus troubler. Comme avait dit le grammairien, à la porte de Césarée, pas une jeune fille n'était là avec des lys et des roses, mais seulement un vieillard chenu, le saint évêque Basile, tenant sa crosse d'une main et de l'autre un plateau sur lequel étaient posés 3 pains d'orge. « Accepte ces pains, Julien César, » dit le prud'homme en s'avançant vers lui, « et sois le bienvenu parmi nous. »« Je n'ai que faire de ton hommage, » répliqua le maître du monde, et se dressant sur ses étriers. « J'aimerais mieux, » ajouta-t-il, « recevoir des orties et des chardons, » que de la farine de tes mains, l'orge et nourriture de bétail, qu'on donne ces pains à mes chevaux et qu'on apporte à ce vieillard une botte de foin. De cette façon, nous serons quittes. « Excuse-moi, répondit l'évêque, ce n'est pas raisonnable à toi de croire que j'ai pensé t'outrager. Avec ces pains, je n'ai voulu que te souhaiter la bienvenue. Je n'entrerai point dans ta ville, répliqua l'apostat de plus en plus courroucé. Mais quand j'aurai vaincu les Perses, je repasserai par ici. Et si je ne retrouve pas sur son socle la statue de Jupiter dont je vous fis don autrefois, si mes dieux ne sont pas ramenés dans leur temple, si des jeunes filles ne m'attendent pas avec des chants et des corbeilles, malheur à toi, Basile, je renverserai ta cité. De tes églises et tes chapelles, je ne laisserai pas pierre sur pierre. Et ni toi, ni les tiens, ne mangeront plus jamais de croûte ni de mie. Sur ces mots, il fit signe à ses gens de continuer leur route, tandis que Libanius s'attardait un instant pour s'informer près de l'évêque si, comme il avait entendu certains le soutenir, il croyait que Jésus de Galilée n'avait été crucifié que dans sa personne humaine, sa personne divine l'ayant déjà quitté au moment du supplice pour gagner les régions célestes. « Je reconnais là, lui dit Basile, les propos exécrables des sectateurs d'Arius et autres hérétiques qui refusent de croire que le Fils de Marie ait souffert sur la croix pour nous racheter de nos péchés. Jamais il n'y eut plus grand mensonge. » « Dis-moi encore, Basile, reprit le grammairien, on prétend que tu as des lumières sur ce qui se passe dans le ciel. Que fait en ce moment le fils du charpentier ?»« Deux cercueils, répondit l'évêque, sans s'expliquer davantage. Puis, saluant le philosophe, il rentra dans la ville. Le deuil fut grand dans Césarée quand on apprit les horribles menaces qu'avait proférées l'empereur. Il eût été plus grand encore si Basile n'avait été là pour réconforter son troupeau. « Prenez courage, disait-il. S'il plaît à ce tyran de nous tuer, il le peut. Mais nous ne devons pas estimer plus que deux moucherons la joie de vivre en ce bas monde. Jésus nous dit dans l'Évangile que s'ils peuvent tout sur nos corps, les païens ne peuvent rien sur nos âmes. N'ayez donc crainte que de celui qui peut précipiter nos corps et nos âmes en enfer. Pouvait-on mieux parler ? Tout le monde approuva ses paroles, et l'on se rendit derrière lui à la chapelle de Saint-Mercure. C'était le patron de la cité. De son vivant, il l'avait défendu avec la lance, le haubert et l'écu, et maintenant il la protégeait par le mérite de ses vertus. Hommes et femmes, clercs et laïcs, grands et petits, priant et pleurant tous ensemble, l'adjurèrent à grands cris de venir encore à leur secours. Et après avoir dévotement baisé les armes dont il avait fait durant sa vie si bon usage et que l'on conservait sur son tombeau comme sainte relique, la foule en longue procession prit le chemin du mont Domini où se trouvait une église neuve qui venait d'être consacrée à la Benoîte Mère de Dieu. « Autre dame !» dit alors Monseigneur Saint Basile en tombant à genoux. Cet antéchrist de Julien, cet hérétique, cet apostat a juré dans sa rage de détruire ton sanctuaire, ton image et ta cité. Et il le fera sans nul doute si le vrai Dieu, ton glorieux fils que tu as nourri de ton lait, le laisse vivre un jour de plus. Sur ces mots, il se releva et, tourné vers les gens qui emplissaient l'église à ne pouvoir y mettre un œuf, les exhorta à prier Notre-Dame, leur donnant la ferme assurance que s'il l'honorait comme elle veut être honorée, de tout cœur et de bon courage, elle saurait bien opposer la raison à la déraison et la tempête à la tempête. Pendant 3 jours et 3 nuits, les prières retentirent sans faiblir un instant sur le mont d'Odimi. On gémit, on pleura, on jeûna, et mieux que tous les autres, le saint homme Basile. Dame Dieu, ne cessait-il de répéter en soupirant, si tu nous défends et nous venges de ce larron qui veut nous jeter dans ses liens, qu'honneur, grâce et louange retombent sur ton fils et sur toi. Le 3e jour, il s'endormit. Or, pendant qu'il dormait, il vit descendre du haut du ciel plus de 100 000 chevaliers, tous plus blancs que des lys. La montagne en était couverte, et au milieu de la sainte cohorte, sur un trône plus éblouissant encore, une femme d'un si beau visage qu'il ne pouvait appartenir qu'à la mère de Dieu elle-même. Et c'était bien elle, en effet. « Va chercher Mercurion, » dit-elle à Saint-Michel-Archange, qui se tenait debout à sa droite, son glaive de lumière à la main. L'archange disparut dans la nuée et reparut presque aussitôt, ramenant avec lui l'illustre capitaine vêtu de blanc comme un enfant de cœur. Mercurion, lui dit Notre-Dame, tu as entendu les menaces que ce maudit Julien n'a pas craint d'adresser à ta cité? Laisse là ton surplis, reprends ton haubert et ta lance, et défais-moi de l'apostat qui a oxy tant de bons chrétiens et nous tient pour vils, mon fils et moi. Ainsi ferai-je, répondit saint Mercure, montrant par son empressement qu'il gardait toujours le souvenir de son ancien état. Il s'inclina profondément. D'un geste gracieux de la main, Notre-Dame lui donna congé. Puis la cour céleste s'évanouit. L'évêque alors ouvrit les yeux, et le cœur tout rempli de sa vision divine courut au milieu des ténèbres jusqu'au sanctuaire de saint Mercure. Les gardiens étaient endormis. Il les réveille, ouvre la porte et va droit au tombeau du saint. À sa grande surprise, mais le contraire l'aurait étonné plus encore, il n'y vit plus la lance, le haubert ni l'écu. Il s'y trouvait pourtant quand nous avons sonné matine, lui dire les gardiens stupéfaits. Connaissant aussitôt à ce signe éclatant que le songe qu'il venait d'avoir n'était pas le produit d'une illusion nocturne, le saint homme se mit à pleurer, remerciant à main jointe Notre-Dame et son fils qui prennent les humbles en pitié et abattent l'orgueil des superbes. Puis sans délai, il retourna sur le mont d'Odimi, où dans l'église tous les gens dormaient encore. Eux aussi les réveillent, leur content sa vision merveilleuse et la chose non moins étonnante qui s'est passée sur le tombeau. Puis d'une voix forte, il s'écrie « Célébrez donc la Mère de Dieu qui est la source et la fontaine de toute compassion et merci, celle qui d'hiver nous a mis en été et de février en mai, et n'ayez plus aucun souci de la colère de ce Julien. » Toutes et tous, fondant en larmes, se mirent à glorifier Notre-Dame et prirent en grande dévotion le chemin du sanctuaire de saint Mercure. Ô miracle ! Le saint les avait précédés. Sa lance, son haubert, son écu étaient revenus sur son tombeau. Et à la pointe de la lance brillaient quelques gouttes de sang frais qui attestaient la vérité de ce que le pieux évêque avait dit. « Seigneur, fit alors le prud'homme, en levant haut la lance pour que tout le monde la vît, qu'est-il advenu à ce monstre qui nous avait tant menacés ? Le fer de saint Mercure l'a glacé pour toujours. Ce sang vermeil nous avertit que son âme bout déjà dans l'enfer, qu'il y broute son herbe et son foin, et magnifions le roi du ciel et sa mère qui nous ont sauvés du martyre auquel nous étions condamnés. Alléluia ! Alléluia ! Tout le reste de la semaine, on entendit à Césarée que l'aude et gloria. Et dimanche étant arrivé, Monseigneur saint Basile achevait de célébrer la messe lorsqu'un homme couvert de poussière se présenta sur le parvis. C'était le grammairien Libanus. Sitôt qu'il fut devant l'évêque, « Réjouis-toi, Basile, lui dit-il, je reviens exprès pour t'annoncer que Julien, mon maître, est mort, le cœur percé d'un javelot lancé par un bras inconnu. Tu ne nous apprends rien, Libanus, nous le savions depuis 3 jours. Mais à mon tour, je vais te dire qui a percé le cœur de Julien. » Et saisissant sur le tombeau du saint patron de la cité le fer posé près de l'écu, voici la lance qu'il a frappée, comme le prouvent ces gouttes vermeilles qui ne sont pas encore séchées. Ton maître n'a pu parer le coup que saint Mercure lui a porté, car nul homme, pas même César, ne peut parer les coups du ciel. « Je ne doutais pas, ô Basile, repartit Libanus, que tu crierais encore au miracle. Mais sache que ton Mercure n'est pour rien dans la mort du divin César. Il est tombé sous la flèche de quelques soldats mécontents qui s'est vengé de lui par traîtrise. Il ne dit pas un mot de plus. Exaspéré par ses blasphèmes, les gens de Césarée s'étaient jetés et il allait expirer sous leurs coups quand saint Basile, écartant les furieux, se pencha pour lui dire à pitoyable voix « Reviens de ton erreur, Libanus, et reconnais enfin le vrai Dieu !» Mais pour toute réponse, Libanus, ramenant sur sa tête un pan de son manteau, offrit à Jupiter le sang qui coulait de ses blessures, sous les yeux de l'évêque stupéfait, qu'on put encore montrer tant d'orgueil, alors que Dieu s'était si manifestement prononcé.